Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Situation difficile pour les assemblées et les gouvernements provinciaux. Faute des rétrocessions par les gouvernements centrales et depuis plusieurs mois, les différentes institutions provinciales sont impayées depuis plus de 30 mois. Une délégation des membres des gouvernements provinciaux a même rencontré plusieurs autorités du pouvoir central, dont le président du Sénat, pour solliciter son implication pour décanter cette situation qui paupérise de plus en plus les provinces. La revendication des exécutifs provinciaux intervient seulement quelques mois après celle des députés provinciaux. Quelle analyse faire de cette situation et quelles conséquences pourrait-elle avoir sur le fonctionnement des provinces? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons Hilaire Kazadi, il est coordonnateur du collectif des ministres provinciaux de la RDC. Il est membre du gouvernement provincial de la Lomami. Bonsoir monsieur le ministre Hilaire Kazadi.
Bonsoir monsieur le journaliste.
Maître Soudi Kimputo Alimasi, expert en décentralisation. Bonsoir maître Soudi Kimputo Alimasi. Voilà, on me signale qu'il n'est pas encore là. Et professeur Jeff Mudimbi, il est professeur à la faculté des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Bonsoir professeur Jeff Mudimbi.
Bonsoir M. Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio 4.
Bienvenue une fois de plus à tout le monde dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Nous le disions dans le sommaire, situation difficile pour les assemblées et les gouvernements provinciaux. Faute des rétrocessions par les gouvernements centrales depuis plusieurs mois, les différentes institutions provinciales sont impayées depuis plus de 30 mois. Une délégation des membres des gouvernements provinciaux a même rencontré plusieurs autorités du pouvoir central, dont le président du Sénat, pour solliciter son implication pour décanter cette situation qui paupérise de plus en plus les provinces. La revendication des exécutifs provinciaux intervient seulement quelques mois après celle des députés provinciaux. Le président du Sénat, Modeste Batilukwebo, a rassuré que cette situation sera décantée en avril. Michel Kifinangoy pour les détails.
Conformément à l'article 175 de la Constitution, le budget des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. La part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40% et les retenues à la source. Cette retenue à la source a été remplacée en application par une rétrocession qui n'a plus eu lieu depuis 30 mois, déplore le ministre provincial du Plan et du Budget de Sankourou. Pierre Wembo.
La dernière rétrocession que nous avons reçue en province remonte au mois d'août 2019, c'est-à-dire dans le dernier trimestre de 2019, l'année 2020-2021 et ce premier trimestre 2021, nous en province, on n'a pas été pris en charge et on n'a pas reçu la rétrocession. Ce qui veut dire, nos ministres provinciaux, depuis cette date-là, nous n'avons pas eu de salaire.
Le Sénat étant l'émanation des provinces, le président Modeste Bahati, à séance tenante, saisit la haute hiérarchie. Les autorités provinciales ont ainsi trouvé un écho favorable, car leur cas sera traité d'ici la fin du mois d'avril, a rassuré mardi dernier Modeste Bahati.
Merci à vous, Michel Kifinangoy. Hilaire Kazadi, je rappelle que vous êtes coordonnateur du collectif des ministres provinciaux de la RDC. Vous êtes membre du gouvernement provincial de la Lomami. Plus de 30 mois que les institutions provinciales sont impayées, ça paraît invraisemblable. Comment on en est arrivé là, monsieur le ministre Hilaire Kazadi?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est pour cette raison que nous sommes ici à Kinshasa. Je crois que nous avons déploré ça il y a longtemps. On se demandait pourquoi, jusqu'ici, on n'allait pas à rétrocéder quand même nos provinces. Mais nous avons compté un mois, deux mois, et jusqu'à ce que nous sommes arrivés maintenant à totaliser maintenant les mois que nous totalisons maintenant. Donc, on se demandait à quel niveau cela a été bloqué, qui bloque et pour quelles raisons. Puisque c'est bien spécifié qu'on doit rétrocéder à nos provinces quand même quelque chose. Il n'y a pas les frais de fonctionnement, il n'y a pas de rétrocession. Il n'y a pas les frais d'investissement. Il n'y a rien, absolument rien. Or, il y a des provinces de quatrième catégorie, catégorie D, qui n'ont pas des investisseurs, qui n'ont pas des industries, donc qui dépendent à 90% du pouvoir central. Mais nous voyons maintenant buter à une difficulté énorme. On ne sait même pas comment encore fonctionner.
Plus de 30 mois, monsieur Hilaire, donc cela veut dire que c'est depuis le début de cette législature que vous n'avez jamais été payé.
Donc, je dis que on a eu 6 mois seulement qu'on a donné, et 4 mois. 4 mois qu'on a eu, jusqu'à présent, on ne verse plus encore quelque chose. Alors, c'est pourquoi nous demandons. Auparavant, on disait que non, il n'y avait pas d'argent. Donc, le pays n'a pas d'argent. Et c'est là que nous nous posons des questions. Est-ce que réellement, le pays n'a pas d'argent pour pouvoir payer, pour rétrocéder aux provinces? C'est ce que nous trouvons un peu anormal. Parce que nous ne pouvons pas supporter jusqu'à aller à 32 mois sans être payé. Il n'y a même pas les frais de fonctionnement. C'est ce qui a causé même des problèmes dans les provinces entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Pourquoi? Parce que en province, on ne fait absolument rien. Tous les projets ne sont pas exécutés.
Hilaire Kazadi, pourtant il est prévu, n'est-ce pas, un budget de rémunération dans les ressources qui sont rétrocédées chaque mois aux différentes provinces. Et si vous dites que ça fait plus de 30 mois que vous n'êtes plus payé, à quoi sert ce budget de rémunération qu'on insère dans la rétrocession?
C'est là où nous nous posons des questions, messieurs les journalistes. Qui bloque, puisque nous voulons d'abord savoir, la santé financière s'est améliorée? Avec l'IGF, nous avons vu que quand même, on nous dit que non, il y a des réserves d'échange qui est là. Alors, mais nous nous demandons maintenant pourquoi on ne peut pas aussi considérer les provinces.
Vous parlez de plus de 30 mois. Et pourquoi avoir attendu si longtemps pour réagir, monsieur le ministre Hilaire Kazadi?
On n'a pas commencé la liste aujourd'hui. On était en train toujours de demander de gauche à droite pour savoir maintenant qui bloque et pourquoi. Et je crois qu'avant le gouvernement Ilunkamba, on nous disait non, attendez, puisqu'il n'y avait pas l'argent. Mais maintenant, nous avons le gouvernement de Wario. Depuis que nous sommes là-bas, vraiment, on se pose des questions. Comment on ne peut pas aussi se souvenir des provinces? Nous sommes les humains. Imaginez-vous, messieurs les journalistes, un père de famille qui est ministre, qui est membre du cabinet du ministre, mais qui fait 32 mois qu'il n'est pas payé. Comprenez? On est devenu même incapable de faire de n'importe quoi.
Justement, monsieur le ministre, depuis plus de 2 ans, vous n'êtes pas payé. Et comment vous vivez si vous n'êtes pas payé depuis plus de 2 mois?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Je crois que c'est ça la question que beaucoup nous posent. Pourquoi vous ne voulez pas démissionner? Comment vous vivez? Mais nous leur disons que nous sommes politiques. Nous ne pouvons pas démissionner comme ça. Si on nous pousse à démissionner, nous n'allons pas démissionner. Ce n'est pas que, comme on ne paye pas, nous devons démissionner. Non, nous réclamons nos droits. Qu'on nous paye d'abord, qu'on voit d'abord qui bloque et pour quelles raisons. Il faut quand même considérer aussi les gens des provinces. Nous sommes les ministres provinciaux aujourd'hui, et puis ceux qui sont là-bas, aujourd'hui ils sont les ministres nationaux. Demain ils ne savent pas parce que la vie c'est comme une roue qui tourne. On ne sait pas maintenant qui sera aussi ministre national, qui ne le sera pas. Mais on doit comprendre que dans des provinces, il y a aussi des gens qui ont aussi besoin de la vie, de vivre aussi comme eux, s'il vous plaît.
Hilaire Kazadi, le gouvernement vient de lancer un vaste plan de développement des 145 territoires. Et à votre avis, comment ce plan pourra-t-il se concrétiser si vous, membre des institutions, à la base, vous n'êtes plus payé?
Je crois qu'avec le plan des 145 territoires, c'est un bon projet, mais nous voulons quand même qu'il y ait aussi des suivis, puisque on peut dire comme ça, bien sûr. Maintenant, pour exécuter et pour décaisser même l'argent, ça deviendra aussi un problème. Il faut maintenant qu'il y ait des suivis, puisque c'est ce que maintenant la population attend. Puisque quand on verra maintenant le projet de 145 territoires, je crois que tout le monde va applaudir. Il faut maintenant qu'il y ait des suivis. Qui va faire quoi? À la place de qui? C'est de cette manière-là que les choses peuvent aller.
Merci beaucoup, monsieur le ministre Hilaire Kazadi. Nous vous gardons encore dans cette émission. Maître Soudi Kimputu Alimassi, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Je rappelle que vous êtes expert en décentralisation. Comment analysez-vous cette situation d'impaiement des membres des institutions provinciales en RDC?
Merci beaucoup pour la question. Je salue tous les co-débatteurs. Je salue les auditeurs de la radio Okapi. D'abord, c'est une grande inquiétude du point de vue de la mise en œuvre de notre processus de décentralisation en République démocratique du Congo. Les finances du pouvoir public et celles des provinces, comme l'énonce la Constitution et les lois en vigueur, sont distinctes. Et la Constitution et les lois de mise en œuvre donnent la possibilité aux provinces d'avoir les ressources propres, mais à côté de ces ressources propres, il y a les recettes à caractère national. Donc c'est le fameux problème de 40%, mais qui a été abusivement transformé par le pouvoir central en termes de rétrocession. Alors, il se pose beaucoup de questions à la fois juridiques et techniques lorsque je vois les députés provinciaux les ministres provinciaux venir demander leur rémunération au niveau du pouvoir central, juridiquement, ça ne s'explique pas. De l'autre côté, il s'appuie sur le non-paiement des rétrocessions. Au fait, les rétrocessions font partie d'un des éléments des finances des provinces et des entités territoriales décentralisées. Est-ce que, pour autant que le pouvoir central commette cette erreur grandiose de ne pas autoriser la retenue à la source ou envoyer la rétrocession, peut maintenant faire corriger et la Constitution et toutes les lois de la République pour permettre maintenant à ce que le pouvoir central puisse budgétiser les paiements des salaires des députés provinciaux et des ministres provinciaux. Donc la lecture de cette question nous pousse à croire que la décentralisation dans notre pays est totalement paralysée. Parce que si elle était mise en œuvre par le pouvoir central, on ne pouvait pas accepter que ces fonds, qui sont des fonds obligatoires destinés au fonctionnement des provinces, ne soient pas payés. Et aujourd'hui, on assiste, nous qui suivons la mise en œuvre de la décentralisation, nous assistons à une scène macabre où on voit les membres des gouvernements provinciaux venir demander leurs salaires au niveau du pouvoir central auprès du ministre du Budget et des Finances du pouvoir central, alors qu'eux-mêmes, ils ont ces ministères qui doivent gérer les finances qui sont totalement distinctes de celles du pouvoir central. Donc c'est un imbroglio total qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si les experts en décentralisation ou en administration territoriale peuvent encore dire que nous avons une décentralisation dans ce pays.
Il y a de cela quelques mois, Maître Soudi Kimputu, dans l'émission Dialogue entre Congolais comme celle-ci, au sujet des institutions provinciales, vous fustigez le fait que, depuis un certain moment, le gouvernement central n'incluait plus les budgets de développement dans la rétrocession qu'il envoyait aux différentes provinces. Alors, si même le budget de rémunération n'est plus, n'est-ce pas, inclus dans la rétrocession, de quoi finalement est constituée cette rétrocession aujourd'hui, Maître Soudi Kimputu?
D'abord, c'est une faute grave pour le pouvoir central de préaffecter les dépenses des provinces dans cette rétrocession. C'est une faute grave. On tolérait au début de la mise en œuvre de la décentralisation parce qu'il y avait beaucoup d'apprentissage au niveau des provinces. Aujourd'hui, lorsque vous lisez les budgets des provinces, les provinces, petit à petit, sont en train d'aller vers l'élaboration des budgets de développement au niveau de leurs assemblées provinciales. Ce qui signifie que cette faute qui était enregistrée dans le cadre de l'apprentissage de la gestion des provinces ne doit plus se commettre. Donc, le pouvoir central n'a pas constitutionnellement et même légalement le pouvoir de préaffecter et le budget de fonctionnement et de rémunération dans ces rétrocessions. Les rétrocessions, en termes de tout ce qu'il y a comme quota à donner à chaque province, doivent être données à ces provinces. Il appartient à ces provinces, dans leur budget respectif, d'affecter ces fonds. C'est comme ça que nous avions fustigé à l'époque que le budget de fonctionnement soit déjà préaffecté et même exécuté par le pouvoir central. Ça, c'est grave dans une république qui se veut démocratique et qui veut mettre en œuvre la décentralisation. Vous allez voir aujourd'hui que nous allons avoir un développement à plusieurs vitesses, tout simplement parce que non seulement ce budget-là qui était d'ailleurs préaffecté ici, il n'est même plus préaffecté de cette manière-là, et les gouvernements provinciaux, la question provinciale en général, parce que cette question, même au niveau des députés provinciaux, les institutions provinciales qui ont aujourd'hui un faible niveau de mobilisation des recettes propres, ils se penchent tous, là encore c'est une faute grave, tous ils centralisent leur budget et de fonctionnement et de rémunération au niveau des rétrocessions, ce qui fait qu'on assiste aujourd'hui à une misère généralisée dans les provinces qui n'ont pas, par exemple, des productions minières, comme ce que l'on voit dans les Lualaba et les autres, des provinces qui ont un peu de ressources. Mais c'est plus de 60 à 70% des provinces aujourd'hui qui vivent une pauvreté énorme au niveau des institutions provinciales.
N'est-ce pas illogique que de considérer les provinces comme des entités autonomes à certains points de vue, alors qu'elles ne bénéficient pas d'autonomie financière, Maître Soudi?
C'est une violation manifeste du principe de libre administration des provinces. On a réduit les provinces qui sont des entités régionalisées aujourd'hui, on les a réduites en entités déconcentrées. Et ça, ce sont les autorités provinciales qui ont prêté le flanc au pouvoir central. Maintenant, ils doivent en tirer les conséquences. Les institutions provinciales ne sont pas des structures déconcentrées du pouvoir central. Ce sont des institutions qui gèrent des entités régionalisées. Et je l'ai toujours dit, il n'y a pas de tutelle entre le pouvoir central et les provinces. Les provinces doivent se gérer dans le principe de libre administration. Et c'est sur base de cela qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien, parce que si ça fonctionnait bien, les provinces pouvaient porter plainte contre le pouvoir central, parce qu'ils ont une personnalité juridique propre pour réclamer ce que et la Constitution et les lois exigent. On devait assister à un procès entre les provinces et le pouvoir central pour réclamer la retenue à la source, ou encore, en des termes voilés, ce qu'on appelle la rétrocession.
Justement,
il n'est pas une faveur du pouvoir central.
Justement,
c'est le droit des provinces.
Justement, maître, au sujet de cette retenue à la source de 40%, qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à appliquer cette disposition qui est constitutionnelle?
À l'époque, il y avait un argument d'État qui disait que si on autorise aux provinces d'exécuter la retenue à la source, il y a des provinces qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui ne fournissent pas des montants considérables au niveau de ces ressources à caractère national. Donc, même en leur donnant les 40% comme retenue à la source, ils ne pouvaient pas bien fonctionner. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on applique un mécanisme d'équilibrage avec ce que les autres provinces nanties produisent pour essayer un peu d'équilibrer pour donner aux autres provinces. Mais ça, juridiquement, ça ne tient pas beaucoup debout parce que il y a ce qu'on appelle la Caisse nationale de péréquation qui devait jouer ce rôle d'équilibrer le développement au niveau des provinces à partir de présentations de projets d'investissement que chaque province pouvait présenter à la Caisse nationale de péréquation qui, elle, a droit de prendre les 10% des recettes à caractère national. Malheureusement, et la caisse ne fonctionne pas. Et cet argument, c'était juste un alibi. Et puis le deuxième argument, c'était que si on donnait les 40%, les institutions ou les services du pouvoir central, comme ceux chargés de sécurité et les autres, ne pouvaient pas bien fonctionner, et tout l'argent partirait au niveau des provinces. Et lorsque vous voyez les chiffres, normalement, c'est aussi faux, cet argument. Et
merci.
Donc, il faudrait un élément de solidarité qui pouvait faire en sorte que le ministère des Budgets et des Finances du pouvoir central pouvait réinstaurer encore le système de rétrocession qui a été combattu par l'instauration de la retenue à la source.
Merci, maître Soudi Kimputo Alimassi. Professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Comment réagissez-vous à ces informations faisant état des non-paiements des membres des institutions provinciales en RDC?
Bien, merci beaucoup, M. Guimaté, pour la question que vous venez de m'accorder. 30 mois d'impaiement, soit 2 ans et 6 mois, c'est beaucoup. C'est pourquoi je commence d'abord par compatir avec les députés, parce que quelqu'un qui travaille et observé 2 ans sans être payé, je pense que sa vie est réduite à sa plus basse expression. Vraiment, nous compatissons avec les députés. Alors, je voudrais maintenant, sur le plan scientifique, essayer un peu d'analyser cette situation. Elle peut être expliquée par quoi? Je pense que la situation des députés peut être expliquée par la conjugaison d'un certain nombre de facteurs, au premier rang desquels je cite le non-respect de la loi sur la décentralisation. Je reviendrai peut-être pour compléter Maître Soudi par rapport à la dernière question que vous lui avez posée. En effet, lorsque nous considérons la loi sur la décentralisation, c'est bien dit qu'on doit retenir 40% de recettes à caractère national. Mais on ne comprend pas, c'est bien inscrit dans la Constitution, aucune province n'a aujourd'hui la capacité de pouvoir retenir les 40% à la source et les provinces attendent des rétrocessions. Même si on considère ces rétrocessions, il s'avère que on n'arrive même pas à atteindre de manière régulière les 20% de rétrocession. C'est ça, entre autres, qui explique la situation dans laquelle les provinces se retrouvent aujourd'hui. Alors, deuxième élément, c'est la capacité aussi des provinces de pouvoir mobiliser les ressources. parce que les provinces, en tant qu'entités régionalisées, dépendent en partie des ressources ou des recettes leur rétrocédées par le pouvoir central et aussi des ressources propres qu'elles-mêmes génèrent. Et ici, nous voudrons quand même saluer certains gouverneurs qui ont réussi par leur capacité managériale à mobiliser tant soit peu certaines ressources au niveau interne, ce qui permet de combler le déficit occasionné par la non-rétrocession de 40% par le pouvoir central. Alors, parce que je suis en train de parler de la capacité de mobiliser les ressources, ici, je voudrais bien pointer la responsabilité de députés. Parce que qui doit mobiliser les ressources? C'est le gouverneur. Alors, le gouverneur a été désigné par qui? Par les députés. Si les députés ont élu le gouverneur inefficace, tout simplement dans le souci de vouloir répondre au mot d'ordre donné par le parti. Voilà maintenant les résultats. On ne table plus encore sur le critère des compétences, mais on voudrait tout simplement ici répondre au mot d'ordre du parti. Et finalement, nous nous retrouvons avec des gouverneurs qui manifestent une incapacité criante de pouvoir mobiliser les ressources et de promouvoir le développement de leurs entités.
Au sujet toujours, de cette capacité des provinces de pouvoir mobiliser les ressources, professeur Jeff Mudimbi, vous avez suivi le ministre Hilaire Kazadi qui a évoqué les provinces qui sont considérées comme étant la deuxième catégorie, qui dépendent à 90%, n'est-ce pas, du gouvernement central. Vous ne pensez pas qu'il se poserait un problème par rapport à la mobilisation des ressources lorsqu'il s'agit de ces provinces? Apparemment, toutes les provinces n'ont pas les mêmes atouts.
Merci beaucoup, M. Guy Maté. Je pense que ça, c'est un faux fuyant. On pense qu'il suffit seulement d'avoir des ressources minières pour pouvoir décoller. Je vais peut-être scandaliser les députés en relevant un cas, mais bien entendu, ce n'est pas vraiment de la comparaison parce que je n'établis pas ici des analogies structurelles, mais fais remarquer que la Suisse, par exemple, n'a pas des ressources minières. Mais laissez-moi vous dire que la source principale de recettes que la Suisse réalise lui vient de quoi? Lui vient du tourisme. Et permettez-moi de vous dire que en 2006, rien que les ressources que la Suisse a générées dans le secteur du tourisme, mais c'est plus que le budget de la RDC. Donc si aujourd'hui nous n'avons pas de ressources minières, donc c'est-à-dire que la RDC tombe carrément, donc on va enterrer ce pays.
Oui, professeur Jeff Mudimbi, est-il dans les contextes du moment en RDC, est-il impossible d'instituer un mécanisme qui permette aux différentes provinces de devenir autonomes financièrement par rapport au gouvernement central?
Je dis que ce n'est pas impossible, tout est fonction de la volonté politique. En effet, lorsque, par exemple, chaque province étudie les mécanismes de mobiliser les ressources, veut vraiment ici capitaliser son potentiel. Et si la caisse de péréquation tourne correctement, je pense qu'il y a lieu de réguler vraiment cette situation-là. D'ailleurs, permettez-moi vraiment de le dire tout haut. Les députés aujourd'hui sont en train de réclamer leur argent. Je souhaite qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Mais voyons un peu le travail que ces députés sont en train de rendre à la communauté ou à leurs entités. Il y a des députés ou encore des assemblées provinciales qui ont été incapables de produire des édits. Alors, quand des gens comme ça ne savent même pas voter des édits provinciaux, mais ils attendent seulement qu'on leur donne, on peut considérer que c'est de l'argent indu. Et puis, ce que les députés ne disent pas, pourquoi ils ne veulent pas démissionner dans toutes les assemblées, et si vraiment on est sincère, on peut maintenant nous éclairer. Ils savent le langage des invisibles. Parfois, ces députés la vivent des invisibles. Les invisibles, c'est toutes les sommes qu'ils obtiennent de manière presque illégale. Quand on veut voter, par exemple, une loi, le moment de voter une loi constitue des occasions pour les députés de faire quoi? De s'étirer un peu d'argent.
Plus de 2 ans sans que les membres des institutions provinciales ne soient payés. Et professeur, cela n'explique pas l'instabilité dans beaucoup de provinces parce que lorsque les animateurs de ces institutions ne sont pas payés, ils sont la proie facile, n'est-ce pas, à toute tentation.
C'est vrai, vous avez raison, Mais même en temps normal, parmi tant d'occasions pour les députés de se faire un peu d'argent, c'est notamment les motions de censure ou de défiance. Alors, ce sont des occasions par à travers lesquelles ils se font, notamment ce que moi j'appelle ici, et eux-mêmes appellent aussi des invisibles. On vote d'abord une motion. Mais dans l'entretemps, on se pose la question, mais qui sont les signataires? Il y a tel. Et après, quand il s'agit de la plénière, les mêmes personnes qui ont signé la motion en bonne et due forme viennent du haut de la tribune avec un discours bien taillé.
Merci.
Qui, après avoir réfléchi, après avoir mûrement réfléchi, et pour l'intérêt de la province, je pense qu'il serait souhaitable et il est même opportun que je retire ma signature et les autres applaudissent.
Merci.
Et vous voyez un peu ce scénario-là auquel les députés nous présentent. C'est vrai, ils ont leurs droits, mais nous souhaitons que eux aussi puissent exercer correctement leurs fonctions dans le sens de promouvoir le développement de nos provinces.
Merci, professeur Jeff Moudimbi. Nous allons maintenant écouter ces différents auditeurs qui sont en train de nous appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Monsieur le ministre Hilaire Kazadi, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui s'appelle Ajibou et qui nous appelle depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Ajibou Masumbuko, amiral, et je vous appelle à partir du sud Kivu à Bukavu précisément. Cette situation est devenue régulièrement dans ce pays. Et voilà pourquoi aujourd'hui les assemblées et les gouvernements provinciaux marchent irrégulièrement et ils ont soif d'émotions. Dernièrement, j'ai entendu dire que pour faire retourner les dents de Lumumba coûte 6 millions de dollars américains. Alors, l'argent pour payer les agents de ces institutions, moi je pense que l'argent est là, mais c'est le gouvernement central qui ne veut pas payer les agents des assemblées, conventions ainsi que des députés.
Hilaire Kazadi.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie sincèrement notre auditeur qui vient de poser la question. Vous devez comprendre que pour une dent seulement, ça demande un peu autant. Mais quand nous avons fait des calculs d'abord, des simples calculs, pour tout ce mois là-bas, on ne dépassera même pas 5 millions de dollars. Et si on paye même partie par partie, je crois qu'on aurait à terminer. Bon. J'ai suivi le professeur Jeff qui fait allusion à Suisse. En Suisse, ils n'ont pas de minerais, mais ils vivent que de tourisme. Nous ne sommes pas en Suisse, nous autres n'avons jamais été en Suisse. Nous vivons dans des provinces démembrées, là où il n'y a pas même des investisseurs. À ne pas confondre prof Jeff Moudimbi. Donc, il y a des provinces, si vous-même vous arrivez là-bas, vous aurez pitié. Alors, c'est pour cette raison que nous parlons que vraiment on a négligé certaines provinces. Donc, par exemple, comme la ville de Kinshasa, province ville de Kinshasa, donc au Katanga, là-bas, il ne faut pas confondre ces provinces avec d'autres provinces de l'intérieur ici. C'est pourquoi quand nous sommes venus ici, c'est parce que nous avons vu que vraiment trop, c'est trop, et on ne peut pas encore supporter. On a supporté il y a longtemps, mais nous risquons encore de partir, puisque dans toutes ces provinces là-bas, donc d'ici là, il y aurait les élections des gouverneurs. Donc, nous avons commencé à crédit, c'est-à-dire sans les frais d'installation. Nous n'avons pas eu même pas un frais d'installation. Donc, nous avons commencé à travailler à crédit. Et nous risquons encore de sortir encore à crédit. Ce qui n'est pas normal.
Voilà, vous avez rappelé le fait que vous venez, n'est-ce pas, de ces processus de démembrement des provinces et que parmi ces provinces-là, il y en a qui n'ont pas assez de possibilités, n'est-ce pas, pour pouvoir mobiliser beaucoup de moyens. Donc, cela voudrait dire que aujourd'hui, il est impossible pour la RDC de mettre en place un mécanisme qui permette à toutes les provinces de devenir autonomes financièrement. Vous resterez de façon éternelle dépendant du gouvernement central.
Non seulement ça. Donc, il y a quand même l'assistance, puisque quand il y a caisse de péréquation, il y a les frais de fonctionnement. D'abord, les frais de fonctionnement. Il y a les frais de rétrocession. Donc, comprenez, pour tout le frais là, on n'envoie même pas quelque chose. Comment on peut vivre? Une province, par exemple, je prends ma province de Lomami, là où il n'y a rien. Il n'y a même pas l'aéroport. Il n'y a même pas les investisseurs. Pensez-vous qu'on peut tenir? Non, on ne peut pas tenir. Ce qu'on peut réaliser, ça ne peut pas même dépasser 200 millions de francs. C'est pourquoi nous vous disons que les provinces, surtout les provinces démembrées, vraiment, ce sont les provinces qui sont tellement en difficulté. Comme quand même il y a la santé financière de l'État qui s'est améliorée, alors on devrait quand même penser aussi
Parce que tout ce temps ici, on donnait toujours ces frais-là. Il y avait les frais d'installation, il y avait les frais d'investissement, il y avait les frais de rétrocession, il y avait les frais de fonctionnement. Mais pourquoi maintenant, ça n'arrive plus encore? Les gens que nous avons remplacés, nous les avons trouvés, ils étaient en train de recevoir quelque chose. Mais nous, depuis que nous sommes là-bas, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, nous avons mal fait puisque nous avons accepté de travailler maintenant dans les gouvernements provinciaux.
Merci, monsieur le ministre Hilaire Kazadi. Maître Soudi Kimputu Alimasi, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui s'appelle Pacifique.
Maître Pacifique Kabamba, depuis la commune de Lemba, Kinshasa. Tant que l'application de la constitution et des lois du pays sera sélective et dépendra de la volonté des décideurs, on ne peut pas parler de l'état des droits qui a comme principe majeur le respect des textes. Comment les gens impayés peuvent arriver à avoir la volonté de développer nos provinces? Le non-paiement de ces autorités est l'une des causes de la mégestion caractérisée par le détournement des recettes provinciales.
Maître Soudi Kimputu Alimasi?
Il a entièrement raison, l'auditeur qui vient d'intervenir. Et je décèle des éléments clés dans son intervention. C'est d'abord la violation de la constitution et des lois par les acteurs de mise en œuvre de la décentralisation. Et je prends ici le cas du pouvoir central, qui non seulement ne veut pas respecter le principe de retenir la source, mais bloque même l'alternative qui a été trouvée en vue de réinstaurer encore ce qu'on appelle la rétrocession. Je me pose même des questions lorsque les ministres provinciaux et les députés provinciaux viennent à Kinshasa. Dans quel budget le pouvoir central va puiser, quelle ligne budgétaire il va puiser l'argent pour payer leur salaire ici à Kinshasa? Il n'y a aucune ligne budgétaire qui prévoit cela. Ça sera du détournement des deniers publics si ça s'est fait.
Pourtant, on a promis que d'ici le mois d'avril prochain, on va décanter cette situation.
Mais j'aimerais qu'on nous dise, quand on va payer ces salaires-là, des ministres provinciaux, des députés provinciaux ici à Kinshasa, les ministres des Finances nationales, les ministres du budget national, ils vont puiser cet argent-là dans quelle rubrique budgétaire? Donc, vous voyez qu'on est en train de bâtir en brèche toute une réforme. La réforme des réformes dans ces pays, c'est la décentralisation parce qu'elle est transversale, elle touche tous les secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, je vais parler, par exemple, du fonctionnement des institutions provinciales elles-mêmes. La loi a dit de 1 à 10 ministres. Mais si vous allez dans toutes ces provinces-là aujourd'hui, même celles qui n'ont même pas le moyen de s'acheter du papier, ont 10 ministres, plus les autres qu'ils appellent commissaires, je ne sais pas quoi là, encore 10, plus d'autres services, ainsi de suite.
Et donc, il y a un problème du respect de la loi.
Non, respect de la loi de tous côtés, que ce soit le pouvoir central ou que le niveau provincial.
Maître Soudi, au sujet de cette question des caisses de péréquation, est-ce que cette caisse est alimentée aujourd'hui? Est-ce qu'elle est alimentée? Et si
la
oui, si elle est alimentée, à quoi servent ces ressources? Parce que les provinces qui sont censées, n'est-ce pas, bénéficier de ces ressources-là, ne reçoivent rien.
La caisse a le même problème que la retenue à la source. Parce que les mécanismes qui sont prévus dans la Constitution pour les 40%, ce sont les mêmes mécanismes qui sont prévus pour les 10% qui sont destinés à la Caisse nationale de péréquation. Lorsque j'ai entendu les ministres provinciaux dire il y a des provinces nouvellement démembrées, ainsi de suite, ces provinces-là, qui n'ont rien, contrairement aux autres qui ont beaucoup de minéraux et consorts, ne peuvent trouver leur salut que dans la Caisse nationale de péréquation, envie d'équilibrer le développement à partir des projets de développement que eux, ils devaient en principe présenter au niveau de cette caisse. Mais la caisse elle-même, elle ne fonctionne pas. Un autre élément, les institutions provinciales. Nous avions même proposé à l'époque que les députés provinciaux, parce que le nombre est colossal, si vous voyez aujourd'hui les volumes de fonds qui sont destinés au fonctionnement des assemblées provinciales et au paiement des salaires des députés provinciaux, ça bouffe tout l'argent qui pourrait être destiné aux investissements au niveau des provinces. Et nous pensons qu'il y a des réformes qu'il faut faire. À l'époque, quand on proposait la loi au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions parlé des jetons de présence des députés provinciaux. Mais ce sont les députés nationaux, parmi lesquels il y avait des futurs députés provinciaux, qui avaient dit qu'il faudrait absolument qu'ils soient payés. Et donc, on a instauré toute une autre fonction publique au niveau des assemblées provinciales
de la République démocratique du Congo. Conséquence, volume exorbitant des fonds à payer qui absorbe en réalité tout ce qui peut être destiné comme fonds d'investissement au niveau des provinces.
Merci, professeur Jeff Moudimbi. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. Il s'appelle Fariel.
C'est Fariel Malassa depuis Kinshasa. Tout dépend de la volonté politique. Car personne n'ignore que la loi CIR, la libre administration des entités territoriales décentralisées, existe. Il est à noter ici que le pouvoir central est responsable de toutes les conséquences à travers lesquelles les provinces sont victimes. La loi est là, vous devez la respecter et travailler dignement pour la prospérité des institutions et du bonheur du peuple congolais. Et si nous voulons réviser la Constitution, c'est cette loi qu'on doit réviser pour que les provinces soient gérées autrement. Au lieu de se focaliser seulement aux articles qui profitent qu'à vos intérêts égoïstes et mesquins, en mettant les destins des institutions en danger.
Professeur Jeff Moudimbi.
Ok, merci beaucoup. Et je salue bien l'intervention de notre compatriote de Kinshasa. C'est vrai, tout ce que nous sommes en train de déplorer ici peut être résolu si réellement il y a la volonté politique. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit que toute la responsabilité repose sur le pouvoir de Kinshasa. Moi, j'ai dit non. La responsabilité est partagée. Elle est partagée entre le pouvoir central et aussi le pouvoir provincial. C'est ainsi que je demanderais, par exemple, à ce que le pouvoir central respecte les lois du pays et qu'au niveau des provinces, qu'on soit aussi à mesure de mobiliser les ressources internes plutôt que de tomber dans ce que je considère comme l'attentisme de ce qui viendra à Kinshasa. Alors, je voudrais un peu rejoindre Maître Soudi par rapport à sa première intervention. Oui, toute la difficulté que nous avons ici tire son origine aussi dans la forme de l'État. Voici, on dit que la RDC est un État unitaire, mais dans l'entretemps, on veut faire des provinces comme s'ils étaient des entités disposant d'un pouvoir autonome. Je voudrais dire ceci. L'État unitaire est caractérisé par le fait qu'il existe un seul détenteur du pouvoir. Même si, dans cet État unitaire, on peut reconnaître que certaines entités soient décentralisées, mais elles ne sont pas détentrices du pouvoir. Tout le pouvoir appartient au pouvoir central, permettez-moi l'expression. Alors, maintenant, considérant la forme de notre État, un État unitaire, mais si l'État central se dit que, bon voilà, en rétrocédant les 40% aux provinces, cela risquerait de causer un peu de déficit dans les dépenses nationales. Il est tout à fait normal que l'État, le pouvoir central qui est détenteur du pouvoir, puisse revoir. Mais maintenant, dans notre Constitution, on a présenté les choses comme si nous étions dans un État fédéral où les provinces sont aussi détentrices de pouvoir d'une certaine autonomie et peuvent agir nécessairement sans se référer au pouvoir central. Voilà un peu la difficulté que nous avons, mais finalement, au lieu de dire seulement que les provinces sont des entités fédérées, alors on trouve un terme pour dire que non, c'est une grande décentralisation, ce sont des entités régionalisées, etc. etc. Là, le constituant devait être très clair. Mais si réellement nous acceptons que nous sommes dans un État unitaire, retenons qu'il n'y a qu'un seul détenteur du pouvoir. Ce détenteur du pouvoir peut déléguer, peut transférer certaines de ses prérogatives aux entités de base, mais celles-ci ne sont pas pour autant détentrices de pouvoir.
Professeur, je voudrais vous demander votre avis. Quelles pourraient être les conséquences que pourrait avoir, n'est-ce pas, le fait que les membres des institutions provinciales ne sont plus payés depuis plus de 2 ans? Les conséquences de cette situation sur le fonctionnement des différentes provinces en RDC?
Bon, ça c'est vrai. Et quand on n'est pas payé, on ne peut être que démotivé. Quand on est démotivé, on ne peut que peut-être répondre favorablement aux mieux offrants. Donc cela ouvre la voie à la corruption des députés. Et quand il y a corruption des députés, les députés ne savent plus encore travailler dans le sens de la volonté du peuple. À ce moment-là, c'est l'inertie totale et c'est le sous-développement qui pointe à l'horizon. Et bref, cela entraîne aussi une certaine dégradation de relations entre les gouvernants au niveau provincial et les gouverneurs qui ont choisi ces autorités-là ou ces dirigeants provinciaux.
Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur le ministre Hilaire Kazadi, vous avez suivi le professeur Jeff Mudimbi qui, en parlant des conséquences, il a notamment évoqué le sous-développement de ces provinces-là suite au fait que vous, membres des institutions provinciales, vous n'êtes plus payés comme il se doit. Alors, qu'est-ce que vous proposerez, n'est-ce pas, pour sortir de cette situation? Hilaire Kazadi. Voilà, apparemment, il n'est pas là. Maître Soudi Kimputu Alimasi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on mette fin à une telle situation? Vous êtes revenu plusieurs fois sur le fait qu'on devait réformer certaines lois. Quelles sont ces lois qui doivent être réformées et pourquoi on ne se penche pas sur cette réforme-là?
L'impression que j'ai est que les principes, l'essentiel des principes énoncés dans la Constitution pour la mise en œuvre de la décentralisation ne sont pas applicables compte tenu des mentalités congolaises, donc de notre pays. Les faits précédents, les droits, je pense qu'il faut des profondes réformes, à la fois constitutionnelles et légales, de manière à ce que les modes de gestion de nos entités, parce qu'il y a une résistance de cette autonomie de fonctionnement de nos entités à la fois régionalisées et entités locales, et en passant, je voudrais peut-être dire au professeur que notre constitution, c'est un compromis entre les unitaristes et les fédéralistes. Et les mécanismes de leur fonctionnement qui prévoient les compétences exclusives de chaque niveau voudraient à ce que ces principes clés de libre administration des provinces permettent à ce que nous ayons des institutions provinciales qui peuvent avoir une tendance politique différente de celle des institutions nationales. Malheureusement, on a comme l'impression que ça ne fonctionne pas. Il faudra absolument que l'on essaie de revoir point par point les éléments essentiels de cette réforme pour permettre à ce que ça puisse tourner normalement. Dans le cas contraire, on va tourner en rond, les provinces recevront toujours des frais de fonctionnement de Kinshasa alors qu'aucune loi ne les prévoit, ainsi de suite.
Merci Maître Soudi Kimputu Alimasi. Je considère ça comme votre conclusion. Monsieur le ministre Hilaire Kazadi, en conclusion, qu'est-ce que vous proposez pour sortir de cette situation? Monsieur Hilaire Kazadi, est-ce que vous êtes là? Monsieur le ministre Hilaire Kazadi, apparemment il n'est pas encore là. Professeur Jeff Mudimbi, en conclusion, qu'est-ce que vous proposez pour sortir de cette crise?
Bon, je propose tout simplement que l'on développe la volonté politique agissante, de sorte que on respecte les lois du pays, on respecte la loi de la décentralisation. S'il y a des choses qu'il faudrait corriger ou amender, qu'on les fasse de sorte que le pays puisse marcher correctement. Au niveau des provinces, je voudrais que les gouverneurs, tous les animateurs, chacun dans son secteur, fassent montre de management public aussi agissant. De la sorte, la symbiose entre ce que les provinces produiront et ce qui viendrait de Kinshasa pourrait permettre à ce que les provinces aussi se développent avec une bonne affectation des ressources.
Cette question des réformes, des profondes réformes, revient chaque fois, n'est-ce pas, lorsque on réfléchit sur les pistes de solutions par rapport aux problèmes qui se posent dans les différentes provinces. À votre avis, professeur, pourquoi les gouvernements, pourquoi les institutions de ces pays ne se penchent pas sur cette question des réformes? Apparemment, ce n'est pas une priorité pour ces institutions.
Oui, bon, moi je pense que le problème se situe d'abord au niveau de la manière dont même nos députés sont élus. Beaucoup de députés ne reflètent pas la volonté du peuple. Il y a beaucoup de députés qui sont tout simplement désignés par leur parti politique. Et si vous retrouvez à l'Assemblée sous cet angle-là, est-ce que vraiment vous pouvez concentrer vos efforts dans le sens de soutenir des réformes? Or, si par exemple au niveau du parti on dit que non, laissez les choses marcher telles qu'elles sont parce que nous en tirons profit, nous en tirons bénéfice, alors le député n'a qu'à se taire. C'est pourquoi nous voulons aussi que les élections se fassent correctement pour que nous ayons des députés qui sont réellement élus par le peuple plutôt que d'avoir des députés désignés par les partis politiques.
Merci, merci professeur Jeff Mudimbi. Merci à Maître Soudi Kimputu Alimasi, au ministre Hilaire Kazadi que nous avons perdu à la fin de cette émission. Merci pour avoir accepté, n'est-ce pas, de participer à cette émission. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique, et à Kelly Nkute et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sabujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite des programmes sur Radio Capi.